Voilà. Eh bien, merci d'être venu à cette première conférence de l'année 2019. Bien entendu, la Société archéologique vous présente ses voeux et remercie tous ceux qui ont envoyé les leurs. Et puis, nous espérons que cette année va être donc fructueuse et peut-être moins froide qu'aujourd'hui. Il se trouve que M. Couchard a eu une fuite d'eau dans sa cave, juste à côté des appareils électriques. Et il n'a pas encore réussi à trouver un plombier, du moins il est en train de le chercher. Et donc je crains que s'il n'ait pas le temps de venir cet après-midi pour nous faire la deuxième partie de l'exposé que nous avions prévu. Le titre de cette conférence d'aujourd'hui, c'est « Brive, ville de préhistoriens ». Ce n'est pas tout de même un titre abusif, étant donné que Brive, dès l'année 1864, c'est-à-dire sous le Second Empire, a commencé à avoir des préhistoriens, des gens qu'on peut appeler des préhistoriens, et qui vont aller fouiller des grottes, soit autour de Brive, soit en Périgord, et qui seront donc les premiers fondateurs de la Société archéologique, disons 10 ans plus tard, un petit peu plus de 10 ans plus tard, sous la Troisième République. Alors, ces personnages, c'est essentiellement Élie Masséna, de la famille Masséna, faite d'innombrables branches, et puis Philibert Lalande, qui lui appartient à une famille également briviste extrêmement nombreuse. Alors il faut d'abord essayer d'imaginer dans quelle ambiance et dans quelle histoire, si vous voulez, il se place. Lorsque nous sommes en 1864, c'est le Second Empire, c'est la seconde partie, on peut dire, du Second Empire, quand ça commence à se gâter un peu, et ce qui caractérise Brive, c'est qu'elle vient d'avoir le chemin de fer. Ça va être l'énorme changement de cette ville, étant donné que ça la met à 1 heure de Bordeaux, ou un peu plus. Mais attendez, avant c'était en diligence. Alors en diligence c'était la journée, hein, pour aller à Bordeaux. Et si c'est pas avec coucher à Périgueux, hein, en principe c'était la journée. Donc ça les met très près de Bordeaux et ça les met aussi très près du Massif central, puisque le chemin de fer va bientôt atteindre la région de Figeac, enfin la région de Rouergue et de Figeac. C'est donc ça qui va changer vraiment de façon extraordinaire la mentalité des brivistes. Pour eux, c'est vraiment un énorme changement qu'on ne peut pas imaginer maintenant, mais qui est énorme. Alors, l'ambiance, d'autre part, l'ambiance, si vous voulez, scientifique, la préhistoire, elle est toute jeune. On commence seulement à en parler. C'est vers, on peut dire, 1840, qu'on commence à faire vraiment des découvertes intéressantes, c'est-à-dire qu'on commence à trouver des silex taillés, et puis aussi des os d'animaux fossiles qui semblent avoir vécu à proximité de ces pierres taillées. Alors il y a de très grosses résistances. Tous les savants qui sont de la période précédente, c'est des gens qui ont vécu par exemple sous l'Empire, qui ont connu aussi quelquefois le XVIIIe siècle, sont tout à fait hostiles à l'idée qu'il y ait des hommes antédiluviens, c'est-à-dire des hommes qui auraient vécu avant le déluge. Naturellement aussi, l'Église catholique est tout à fait opposée à l'idée d'hommes antédiluviens. Pour elle, pour l'Église, et d'ailleurs pour les églises aussi protestantes, c'est Dieu qui a créé l'homme à son image, c'est-à-dire lui ressemblant, et il l'a créé adulte. C'est-à-dire que les théologiens nous expliqueront qu'il ne pouvait pas être créé bébé, parce que comment il aurait fait pour se nourrir? Donc nécessairement, il est créé adulte, Adam. Et donc, ils sont tout à fait opposés à l'idée qu'il y ait eu un homme avant Adam. En somme, ce qu'on appelle des hommes pré-adamiques. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile à soutenir. En effet, ce n'est pas les historiens qui vont porter, si vous voulez, le fer dans la plaie, ce sont les géologues. Les géologues, ce sont des gens qui, évidemment, en étudiant les différentes couches géologiques de la Terre, se rendent compte qu'elle ne peut pas être si jeune que ça, la Terre, qu'elle ne peut pas avoir seulement 6000 ans, puisque dans la Bible, on calcule que ça a commencé, si vous voulez, la création du monde, il y a 6000 ans. Et ils se mettent à dire, non, ça doit être plus ancien que ça. Alors au XVIIIe siècle, quelqu'un comme Buffon disait, ça doit bien faire au moins 20 000 ans. Et puis en douce, dans ses papiers, il écrivait que ça pourrait bien faire 3 millions d'années. Seulement, il l'écrivait pour lui. Il ne l'écrivait pas pour que ça se sache, parce qu'il était méfiant de ne pas d'avoir des ennuis. Donc on peut dire que ce sont les géologues qui véritablement vont commencer à expliquer que la Terre est beaucoup plus vieille qu'on ne le croit. Et quelqu'un comme Cuvier ça se passe sous le Premier Empire et sous la Restauration, commence à dire que les os fossiles qu'on trouve, c'est pas des os de dragon, c'est pas non plus des os de géants, parce qu'il y avait des fois où on pensait que c'était des géants, et d'autres fois on pensait que c'était des dragons. Il dit non, ce sont des os d'animaux qui ont vécu dans les temps anciens et qui ont disparu. Alors ça a déjà fait une grosse impression aux gens. Ils y croyaient plus ou moins. Ça, c'est Cuvier. Donc, Cuvier ne va pas aller plus loin. Il ne croyait pas qu'il y avait des hommes qui aient pu vivre avec ces animaux-là. Ils pensaient que c'était vraiment des animaux et que ça, c'était pas possible qu'il y ait des hommes qui aient vécu à ce moment-là. Donc ça, si vous voulez, c'est le côté géologue. Et puis, on commence à parler aussi des haches polies, qui étaient bien connues. Beaucoup de paysans en trouvaient dans leurs champs et les ramassaient. Et on appelait ça des pierres à foudre, parce qu'on était jusque-là, jusqu'au XVIIIe siècle, persuadé que c'était des éclairs qui avaient provoqué ces chutes de pierres, et que c'était donc des pierres extraordinairement intéressantes. Alors souvent, les paysans les mettaient dans les granges et dans les maisons pour protéger la maison de la foudre. Ça, c'est très fréquent. Mais il y avait aussi des gens de la noblesse qui gardaient ces pierres à foudre sous prétexte qu'elles avaient un pouvoir magique et en particulier, elles facilitaient les accouchements. Donc il y en avait dans les familles royales, ouais. Des silex taillés ou des silex polis, vous voyez, des pH polis, en assez grande quantité. Et parmi les bibliothécaires du pape, parce qu'en Italie, il y a beaucoup de ce genre de fossiles anciens, quoi, de pierres taillées ou de haches polies. Un bibliothécaire du pape, ça se passe en 1593, comme on dit au XVIe siècle, a commencé à dire que ce n'étaient pas des pierres tombées du ciel, mais que ça devait être des pierres qui appartenaient à des hommes primitifs. Autrement dit, il a gardé ça pour lui, il a mis ça dans ses papiers, mais il n'en a pas fait de publicité. Autrement dit, vous voyez, dès le XVIe siècle, dès la Renaissance, on pouvait commencer à imaginer qu'il y avait des hommes qui avaient vécu dans des temps vraiment très, très anciens. Nous arrivons dans les années 1840. Dans ces années-là, la grande manie, c'est la celtomanie. C'est-à-dire que tous les archéologues, qu'on appelait à cette époque-là des antiquaires, et qui fondaient des sociétés, la Société des antiquaires de France, la Société des antiquaires de Normandie, etc., ces antiquaires étaient persuadés qu'il fallait tout attribuer aux Gaulois. Tout simplement, aux Gaulois. Et c'est ainsi que, par exemple, ils ont attribué les dolmens et les menhirs aux Gaulois. Ils ont longuement expliqué que les druides, qui étaient les prêtres de la religion celtique, faisaient des sacrifices sur les dolmens, Alors il nous expliquait qu'il y avait des trous dans le dolmen pour faire couler le sang, que la table dessus servait pour étaler les victimes. Bref, il devenait vraiment très romantique, il était en pleine période romantique. Et alors tous les antiquaires, et il y en avait beaucoup dans la région, dans cette région, en Limousin, ont commencé à attribuer aux Gaulois tous les endroits un petit peu fortifiés et étranges qui étaient sur les collines, tous les dolmens, tous les tumulus, etc. Alors ça a eu quand même un inconvénient, c'est qu'ils ont attiré l'attention des paysans, qui ont commencé à se dire que si on parlait de ça, c'est qu'il devait y avoir des trésors dedans, d'autant que dans beaucoup de légendes, dans beaucoup de contes, on vous explique que sous un dolmen, il y a un trésor qui est entouré dans une peau de chèvre, je ne sais pas pourquoi, mais que la nuit de Noël, ou bien à Pâques ou à la Trinité, le dolmen s'ouvre pendant la nuit, et on peut récupérer le trésor, comme ça, en l'espace de quelques minutes. Ça, c'est des légendes qui couraient beaucoup en Bretagne, où certains dolmens et de différentes pierres taillées. Donc c'était très courant en Bretagne, mais c'était aussi très courant à Limousin. Et alors le résultat, c'est que beaucoup de ces dolmens et beaucoup de ces tumulus ont été farfouillés pour essayer de voir si dedans il n'y avait pas des choses qu'on pouvait transformer en trésors. Alors ils n'ont pas dû trouver grand-chose, mais quand même, c'est un peu dommage dans la mesure où ça a été farfouillé au lieu d'être réellement fouillé. Donc ça, c'est les années 1840. Et arrive Boucher de Perthes, qui était un chercheur qui vivait dans le nord de la France et qui commence à trouver des silex, mais alors cette fois-ci en quantité, des silex taillés. Et on commence à se dire, tout de même, c'est étrange que tous ces silex se retrouvent dans des couches de terrain aussi profondes. Ça doit être d'avant les Gaulois, et donc ça doit être avant le déluge. Alors on ne disait plus avant Adam, on disait avant le déluge, et on essayait d'imaginer un peu qu'est-ce que ça pouvait être comme époque. Beaucoup disaient d'ailleurs, ce n'est pas des pierres taillées, vous vous trompez, c'est parce qu'ils ont reçu des chocs, c'est si bête, et c'est naturel. Et c'est vrai que les silex, les rognons de silex, quelquefois peuvent se briser sans qu'on l'ait voulu et donner quelque chose qui peut ressembler effectivement à un silex taillé. Mais évidemment, pas un beau silex taillé, pas celui qu'on vous a montré tout à l'heure. Disons des coups de poing, des choses assez vulgaires, si on peut dire. Et nous arrivons donc au Second Empire. Alors, c'est une période où la préhistoire va véritablement démarrer, se développer, et surtout aussi grâce aux savants qui entourent Napoléon III. Alors, à l'origine, Napoléon III faisait surtout faire des recherches sur César et la guerre des Gaules. Donc, il essayait de faire fouiller tous les endroits où il avait eu lieu des batailles durant la guerre des Gaules. Mais du même coup aussi, ben, les gens trouvaient autre chose que des Gaulois et puis que César. Et il a fondé le musée de Saint-Germain-en-Laye. Et dans ce musée de Saint-Germain-en-Laye, qui aurait dû normalement être consacré donc aux Gaulois, aux Romains et aux Gallo-Romains, eh bien, toute une équipe va se charger de faire une section préhistoire. Et parmi eux, mais ça arrivera vers 1864-65 seulement, parmi eux, il y a un personnage qui s'appelle Alexandre, je crois, de Mortillet, qui est un libre-penseur, quelqu'un qui a été exilé au début de l'Empire, parce qu'il était hostile à Napoléon III. Il est allé vivre en Suisse. Ensuite, il est allé soutenir Garibaldi en Italie. Garibaldi essayant de libérer l'Italie du joug de l'étranger, des Autrichiens, et puis aussi des différents rois. Donc il passe pour quelqu'un de très à gauche. Et il va donner à la préhistoire, si vous voulez, une tendance politique de gauche. Alors non seulement vous avez déjà l'Église catholique qui est très réticente et qui explique que c'est pas possible qu'il ait vécu des hommes avant Adam. Mais vous avez aussi, en face, ces préhistoriens très engagés qui vous expliquent que les hommes préhistoriques n'avaient pas d'âme, que c'était des animaux un peu perfectionnés. Et naturellement, la théorie de Darwin, qui consiste à dire que l'homme est un cousin du singe, ce que les gens ont immédiatement transformé en l'homme est un descendant du singe, ça leur convient parfaitement. Ils vont donc commencer à présenter l'homme préhistorique comme un espèce de passage entre l'animal, le singe, et puis l'homme moderne, comme vraiment très très primitif. Quand on voit les premiers dessins qui sont censés représenter des hommes préhistoriques, alors ils sont velus, couverts de fourrure, ils se tiennent courbés, ils ont vraiment l'air pas catholiques, quoi. Et c'est ça qui pose un peu un problème. Autrement dit, d'un côté, des préhistoriens qui exagèrent un peu l'aspect primitif de ce qu'ils découvrent, et puis de l'autre côté, des gens qui sont pas d'accord du tout avec la théorie de Darwin, qu'on appelait le transformisme, et qui sont, eux, pour l'idée que l'homme a été créé d'un seul coup et qu'il n'a jamais évolué, qu'il n'a pas changé, si vous voulez. C'est la doctrine fixiste. Elle est encore enseignée aux États-Unis. Dans beaucoup d'écoles américaines, il n'est pas question de parler de Darwin, hein, parce que c'est contraire à la Bible. On avance donc, et nous arrivons à Brick. Alors justement, qui sont Elie Masséna et Philibert Lalande? Alors, Elie Masséna d'abord. Ça, c'est un personnage très pittoresque. Il est le fils d'un notaire. Son frère est également notaire. Il est né en 1800. Alors là, il faut quand même que je regarde mes notes, parce que je ne veux pas me tromper. Parce qu'après, je vous donnerai quelques éléments qui sont précis. Alors, est-ce que j'ai mis Masséna? Masséna, il est né en 1832. Donc en 1864, il a une trentaine d'années. C'est donc quelqu'un d'assez jeune. Et il est très jeune, parce que né en 1832, il a acheté en 1857 la papeterie, enfin la filature de coton de Malemort, qui appartenait à la famille Leclerc, et que la famille Leclerc a vendu. Au moment où il l'a acheté, il n'a pas de chance, 1857, c'est le moment où la concurrence anglaise est très forte sur tout ce qui est tissu. Il va donc renoncer à en faire une manufacture de tissu, coton et soie, et il en fait une manufacture de papier de paille. Le papier de paille, c'est du papier que vous faites à partir de la paille, mais malheureusement aussi à partir des vieux papiers. Et c'est ce qui explique, parce qu'il y avait quand même 4 manufactures de vieux papiers à Brive et à Malemort, ça vous explique qu'on n'a plus beaucoup d'archives sur Brive. Parce que tout le monde, dès qu'on commençait à déménager, ou dès qu'on voulait vider le grenier, envoyait ça à Malemort, ou envoyer ça au moulin qui était tout à fait le moulin du prieur, qui était aussi un moulin de papier de paille. Ça, c'est un peu catastrophique. Et ce qui est dommage, c'est que Masséna, qui s'intéressait beaucoup à la préhistoire, ben, s'est pas intéressé aux vieux papiers, et il les a mis à bouillir dans sa papeterie. Donc vous voyez quelqu'un de très jeune qui s'achète une papeterie, qui reste célibataire, et puis qui mène une vie assez agitée. Et il va donc aller faire des fouilles. Il va être intéressé par les fouilles. Et il va être intéressé surtout par un personnage qui fouille en Dordogne et qui s'appelle Lartet. Et avec Lartet, donc, il va essayer de faire des fouilles dans le Périgord. Et puis aussi, avec Philibert Lalande, autour de Brive. Alors, Philibert Lalande est beaucoup moins pittoresque. Il est un petit peu plus jeune que Elie Masséna. Il est né en 1834, alors que Elie Masséna est mort dès 1903. Philibert Lalande, il va vivre beaucoup plus longtemps, jusqu'en 1925. Il est donc mort nonagénaire. C'est un monsieur qui appartient à une famille de Brive très connue. La famille Lalande, c'est une grande famille de commerçants et puis aussi de militaires. Son père est un militaire. Et lui-même, il va, on peut dire, vivre de ses rentes et être en même temps administrateur de l'hospice, qui ne s'appelait pas encore hôpital, mais qui ne lui donnait pas un travail gigantesque. Vous êtes dans une époque où tous ces préhistoriens sont toujours, ou presque toujours, des gens quand même assez fortunés, parce qu'ils ne fouillent pas eux-mêmes. Ils font travailler des ouvriers, qui eux ouvrent des grandes tranchées, à travers les grottes ou même dans les terrains. Et eux, ils n'arrivent qu'en fin de programme, si vous voulez, quand on a un peu déblayé et puis qu'on commence à trouver des choses intéressantes. Ce n'est pas, si vous voulez, des gens qui vont fouiller au départ dans un endroit donné. Alors, Philibert Lalande, lui, il va s'intéresser uniquement à la région de Brive. Il ne va pas du tout essayer d'aller dans le Périgord. Mais en revanche, il s'est intéressé à la préhistoire et donc il a fait tout un catalogue des découvertes préhistoriques. Mais il s'est intéressé aussi à beaucoup d'autres choses. Par exemple, à la numismatique, c'est-à-dire les monnaies. Il s'est intéressé aussi au Moyen-Âge, aux églises, aux châteaux. Et il a essayé plutôt de faire des inventaires généraux, vous voyez, sur tout ce qu'on pouvait trouver en Corrèze, plutôt que de se baser uniquement sur la préhistoire. Et d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup des préhistoriens de cette époque-là. Ce sont en réalité des gens qui s'intéressent à tout. Alors, un peu à la préhistoire, mais pas uniquement. Et la grande époque de ces préhistoriens, vraiment, ils vont beaucoup s'intéresser à la préhistoire, c'est cette période 1860, on va dire 1870. Ça, c'est la meilleure période. C'est le moment où ils commencent à découvrir des ossements humains à côté d'animaux qui, visiblement, sont très anciens. Et ils vont commencer aussi à donner aux âges de la préhistoire des noms suivant précisément les animaux auprès desquels on trouvait des os, vous voyez, ou des restes humains, des silex taillés. Alors ça va donner l'âge de l'ours des cavernes, l'âge de l'éléphant méridional, ça va donner ensuite l'âge du bison, enfin, vous voyez. Et en fait, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que ce n'est pas une classification valable, parce que certains de ces animaux ont vécu en même temps, et donc on ne peut pas se servir de cette classification. Vous savez, toutes les sciences, ça commence en principe par une classification. Et Gabriel de Mortillet, qui s'occupe, lui, d'une revue qui s'appelle « Matériaux pour servir à l'histoire de l'homme », va décider une autre classification. Et cette classification, elle est d'après des sites où on a trouvé des objets préhistoriques. Alors il va s'arranger évidemment pour donner le nom des périodes de la préhistoire suivant ces endroits tout à fait précis. Par exemple, le Chéléen, qui est une des premières époques, c'est les grottes de Chelles. Le Moustier, qui est en Périgord, ça va donner le Moustérien. La Madeleine, qui est aussi en Périgord, ça donne le Magdalénien. Alors, les autres préhistoriens. Alors là, il faut que je vous passe une confidence. M. Lachaud ne va peut-être pas apprécier, les préhistoriens ont assez mauvais caractère. Et on s'est demandé pourquoi. Parce que les préhistoriens n'ont pas si mauvais caractère. Mais les préhistoriens, leur problème, c'est quand même qu'ils se trouvent devant des hommes qui ne leur parlent pas. Et c'est très gênant. Je pense qu'ils ont quand même par rapport aux historiens, une espèce de gêne. Ce sont des hommes qui ne leur parlent pas, qui dessinent, qui fabriquent des outils, mais voilà, auxquels on ne peut pas extraire des confidences. On ne peut pas savoir ce qu'ils ont pensé, en réalité. Et donc, il y a beaucoup de disputes entre préhistoriens, surtout à cette époque. Et Gabriel de Mortillet, Alexandre, il s'appelle Gabriel. Gabriel de Mortillet est donc très mal vu par les autres préhistoriens, en particulier par un nommé Cartaillac, qui lui était de la région du Toulousain, et puis d'autres préhistoriens. Et nous avons donc la correspondance de Philibert Lalande avec différents préhistoriens, et en particulier avec un ami à lui qui habitait à Saint-Germain-en-Laye, qui était bibliothécaire de Saint-Germain-en-Laye, et qui visiblement, étant plus âgé que lui, trouvait que ces histoires d'hommes préhistoriques, c'était pas très croyable, pas très compréhensible. Alors on voit que Philibert Lalande essaye de le convertir, mais lui, il lui explique que ces hommes préhistoriques, vous dites qu'ils ont vécu l'homme du moustier, l'homme de la Madeleine à une époque différente, et comment vous pouvez en être sûr, etc. Si vous voulez, on avait des doutes. Et Masséna et Lalande restaient imperturbables, et ils ont fait des découvertes tout de même très intéressantes. Alors, Masséna s'est occupé surtout du Périgord, mais il a tout de même fouillé, je crois, du côté de chez Pourré, comme Lalande. Je crois que Lalande a été le premier à qualifier de burin un outil qui avait été trouvé. Autrement dit, les classifications par outils, ça va être aussi une des spécialités des préhistoriens. Et puis, Lalande a fouillé une grotte qui s'appelait Combenègre, avec un personnage qui s'appelait Monsieur de Rochebrune. Et Monsieur de Rochebrune, qui était un poitevin, lui écrit une lettre dans laquelle il lui dit « Méfie-toi, enfin c'est presque dans ces termes, méfie-toi, il y a les préhistoriens du Périgord qui vont débarquer à Brive, dépêche-toi de vider complètement la fouille de Combenègre, emporte tout ce que tu pourras. » Et puis, ça se passe en 1864, il termine sa lettre en disant « En revenant de Brive, j'ai eu une escarbille dans l'œil, dans le train entre Brive et puis là où il allait, en Poitou, et une aimable poitevine m'a enlevé l'escarbille. » Vous savez que c'était le problème numéro un des trains. Dans une autre lettre à Lalande, d'un autre préhistorien, ce préhistorien explique à son fils, qui était collégien à Brive et qui rentrait donc à Poitiers, alors il lui dit dans sa lettre, il lui explique comment il faut prendre le train, c'était nouveau, comment il faut qu'il s'arrête à Périgueux pour visiter la ville, mais il n'a qu'une heure, alors il faut qu'il soit en vitesse à la gare. Ensuite, il ne faut pas qu'il se mette dans le sens de la pensée, parce qu'il va justement recevoir des escarbilles dans l'œil et même attraper un froid, un chaud et froid. Vous savez que 50 ans avant, quand on a eu les premiers chemins de fer, on a pensé que dans les tunnels, les gens seraient asphyxiés. Et on était persuadés que d'ailleurs la vitesse, ça allait rendre les gens complètement malades. Ça, c'est la vie. Alors donc, Lalande s'est occupé de ces grottes aussi. Avec d'autres préhistoriens et aussi avec un personnage de la Corrèze qui s'appelait Rateau et qui était inspecteur primaire. Alors lui, il est, si vous voulez, l'ancêtre de ce qui deviendront la seconde série de préhistoriens, c'est-à-dire ceux de la période de Buissonni, l'abbé Buissonni, période où pratiquement ce sont des curés et des instituteurs qui sont les véritables préhistoriens. Parce qu'ils sont sur place, ils fouillent eux-mêmes, mais ça commence ça seulement autour de 1920. Alors donc, nous avons ces deux précurseurs, qui sont tous deux brévistes, et qui sont également tous deux les fondateurs de la société préhistorique, de notre société, la société archéologique. Alors ça se passe en 1879, c'est donc longtemps après leur découverte, et c'est au début, ce qu'on peut appeler la Troisième République. C'est encore les débuts. Vous savez que la Troisième République, elle a eu beaucoup de mal à s'installer. En 1873, toujours à Philibert Lalande, le nommé Mazard, lui écrivait en lui décrivant le congrès préhistorique qui se passait à Rome. Et l'Italie, elle venait d'être libre. Jusque-là, l'Italie a été partagée en différents États. Il y avait les États du Pape, il y avait les États autrichiens qui étaient à Venise, il y avait des rois. Et voilà que, en 1870, l'Italie se trouve libérée et elle organise un fastueux le congrès archéologique, où il y a eu des représentants de tous les pays. Alors les plus connus, c'était les Danois, les Suédois, parce qu'eux, ils commençaient à faire des recherches alors, dans la préhistoire plus récente, disons plutôt le néolithique, ces périodes-là. Il y avait aussi des Anglais, et il y avait pas mal de Français. Et puis comme l'Italie est un véritable réservoir de préhistoire, ça on sait moins parce qu'on s'occupe surtout des églises et des œuvres d'art en Italie. Mais c'était un pays qui avait une préhistoire extraordinaire, et donc il lui décrit les interventions des Italiens qui étaient très intéressantes. 1879, donc, on fonde la société archéologique, la société archéologique la nôtre, à Brive, exactement en même temps que se fonde à Tulle une société qui prend un autre nom, puisqu'elle s'appelle Lettres, Sciences et Arts. En fait, elles sont concurrentes. C'est Tulle qui a commencé, parce que Tulle avait la préfecture, et c'était le préfet qui était un peu le patron de cette société. Et Brive a bien entendu continué, presque avec un mois de retard, mais pas plus, parce que les gens de Brive n'ont pas voulu aller à Tulle pour adhérer à une société qui disait que son siège était à Tulle. Donc, fondation d'une société tout à fait différente de celle de Tulle. Alors là, si vous avez le livre de Monsieur de Mars sur la préhistoire en Corrèze, qui est un très beau livre et que je vous recommande, il a été publié par Lettres, Sciences et Arts. Il a été publié à Tulle. Alors évidemment, Monsieur de Mars est obligé de leur faire quelques compliments et il déclare que les deux sociétés ont fait de la préhistoire. On va dire que c'est beaucoup exagéré. À Tulle, ils ont commencé à faire de la préhistoire au temps de Marius Vazeil. Et Marius Vazeil, il a pris la société Tulle en main, il a été président en 1954. À Brive, le premier article de préhistoire, c'est dans le bulletin de 1880. Et d'autre part, alors, il y a eu toute une quantité d'articles au temps des abbés Buissonni, c'est-à-dire à partir de 1900 et jusqu'à la mort de Jean Buissonni, c'est-à-dire en 1958, quoi. C'est-à-dire pendant 58 ans, quand même, et même plus. Donc la société de Brive se fonde sur un principe qui est tout à fait particulier et qui est précisément la défense des sciences. Nous nous appelons quand même scientifiques, historiques et archéologiques. Et à cette époque, je crois que archéologique venait avant historique. Et donc le but de cette société, c'est quand même la science. La première chose qui est faite, c'est de prendre un président qui est un géologue, qui s'appelle Mouret, et qui a fait l'étude de la géologie de la Corrèze. Donc vraiment, on s'oriente vers les sciences. Ensuite, Ernest Rupin va publier pendant un certain nombre d'années des articles sur la botanique, c'est-à-dire toutes les plantes de la Corrèze. Et c'est très intéressant à étudier parce que ce sont des plantes qui maintenant ont souvent disparu. Lalande, qui était secrétaire général et qui l'est resté pendant très longtemps avant de devenir président, lui-même à son tour, a donc fait des articles essentiellement sur, d'une part, la préhistoire, mais aussi le gallo-romain. Et il a fait des articles pour montrer, par exemple, que les puits, comme le puits d'Issendon, ou d'autres endroits de ce type, n'étaient pas préhistoriques, mais dataient probablement, au contraire, de périodes beaucoup plus récentes. Et puis, il a aussi fait des études sur beaucoup d'objets qui avaient été trouvés, soit dans les tumulus, soit beaucoup plus tard, les objets d'époque médiévale, par exemple, ou gallo-romaine. Et la société va être toujours orientée vers les sciences, si bien qu'elle sera en plein mêlée au véritable conflit qui a existé dans les années 1900 autour de ce qu'on a appelé l'apostolicité de Saint-Martial. Ça, c'est un peu le même problème que Adam et l'homme pré-adamique. L'apostolicité de Saint-Martial, ça veut dire qu'on pense que Saint-Martial a vécu au temps du Christ, qu'il a débarqué en venant de Rome, en Gaule, dès le 1er siècle, et qu'il a converti les gens de Limoges. Alors évidemment, c'est une théorie qui est très très appréciée à Limoges, parce que ça donne vraiment à Saint Martial la qualité d'un apôtre. C'est pas un simple évêque qui aurait vécu 3 siècles après. Non, non, c'est un apôtre. Et les gens de la société de Limoges, qui est une société très ancienne, puisqu'elle a été créée en 1846, une très vieille société, a tenu ferme sur le problème de l'apostolicité de Saint Martial jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tout le monde dise que c'était pas possible, quoi. Que le Limousin a été christianisé au 3e siècle, au plus tôt. Et les paysans de la campagne, plutôt au 5e siècle. C'est pour vous dire que, alors que c'était Ernest Rupin, qui était en tête dans la bagarre concernant cette apostolicité, parce que lui, il s'attaquait à Amadour, le personnage qui a vécu à Rocamadour, et qui était théoriquement un ermite ayant vécu et ayant connu Saint Martial. Alors, expliquant que Amadour ne pouvait pas avoir vécu à cette époque-là, au 1er siècle, eh bien, du même coup, il remettait en cause Saint Martial lui-même. Et il a été attaqué très, très méchamment. L'Église lui en a beaucoup voulu. Heureusement, tous ces messieurs avaient en général des femmes qui allaient à la messe, parce que c'était plutôt des radicaux que des extrémistes de l'extrême gauche, et donc ça améliorait les choses, si vous voulez. Madame Rupin a été une grande bienfaitrice de Saint-Cernin. Je crois que c'est elle qui a donné les cloches de Saint-Cernin, et même une des cloches de la collégiale. Vous voyez, il fallait quand même essayer quand même de se consigner. Pendant ce temps-là, à Tulle, ils sont toujours à la remorque de Limoges et ils sont toujours hostiles à tout ce qui est nouveauté. Ils vont tenir le coup extrêmement longtemps à Tulle sur le fait que les dolmens ont été occupés par des druides et que c'était les Gaulois qui étaient les fabricants de ces dolmens. Voilà pour ces deux personnages. Je pense que j'ai fait mon travail. Comme M. Couchard n'arrive pas, et qu'il n'a pas pu avoir donc son plombier, eh bien nous allons passer, si l'on peut dire directement, en faisant un bond dans le temps, puisque nous dépassons l'époque des frères Buissonni, ce qui nous mènerait de 1900 à 1954, et nous faisons surtout un bond de 1954 à 2016 et à M. Couchard, qui fut le successeur des abbés Buissonni. Vous préférez vous mettre ici, là ? Oui, vous voulez y voir, là. Voilà. Je vous présente M. Lachaud. Je ne sais pas si j'ai à vous le présenter, car on vous a déjà fait des conférences et interventions. Et il va donc nous parler de ses projets et de ce qu'il fait autour de ce...
Alors, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer mon petit laïus sur ce biface, je vais juste revenir une petite minute sur les propos de Madame Guédy,
oui,
concernant notamment la naissance de la préhistoire. Il est important, les dates ont une importance, même si quand on est préhistorien à 1000 ans près, c'est pas bien grave. Mais effectivement, il faut bien avoir en tête que Lalande et Masséna, quand ils commencent à fouiller le secteur de Brive, on est en 1864.
64.
Et la préhistoire, l'antiquité de l'homme, elle n'est reconnue de manière quasiment officielle, je dis bien quasiment, que depuis à peine 5 ans. 5 ans. Donc vous voyez que ça fait vraiment très peu de temps qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il existe bel et bien un homme antédiluvien. C'est important à noter parce que justement ce sont les travaux de Boucher de Perthes,
oui,
dans la Somme, qui vont mettre à jour cette antiquité de l'homme. Boucher de Perthes qui ne sera pas très cru par ses contemporains français, et un petit peu à la décharge des contemporains de Boucher de Perthes, il faut dire aussi que dans ses explications, Boucher de Perthes était un tout petit peu embrouillé. Je rappelle qu'il était douanier de formation et absolument pas archéologue, encore moins géologue ou préhistorien. Donc ces explications étaient un petit peu embrouillées, et surtout ces figures montraient des silex taillés qui, quand vous regardez ces articles, ressemble un petit peu à tout sauf Élysée. Ce qui est un petit peu embêtant quand on dit France qui était de l'homme. Quoi qu'il en soit, en fait, c'était en 1859 que Boucher de Perthes va recevoir la consécration non pas des Français, manque de bol, on est toujours à la traîne dans ce genre de cas, mais des Anglais, sous l'impulsion notamment des correspondants de la Société britannique, sous l'impulsion aussi de Lyell, le grand géologue anglais, 1859, qui a une résonance aussi particulière en tant que date, puisque ça va être la reconnaissance officielle de la préhistoire, d'une part. D'autre part, c'est aussi la publication originale de l'origine des espèces de Darwin. Voilà. Donc, double coup de butoir sur la société bien pensante de l'époque. Et je trouve que c'est un sacré pied de nez, en fait. Et c'est sous ces deux aspects-là que des gens comme, justement, Lalande et Masséna vont commencer à fouiller du côté de Brive. On va avoir des exemples similaires en Dordogne,
oui.
On va avoir des exemples similaires dans les Pyrénées.
Oui.
Vous citez Cartaillac notamment tout à l'heure. Cartaillac qui fut à l'époque professeur de la toute première chaire de préhistoire existante en France, justement dans la seconde moitié du 19e siècle, à l'université de Toulouse. Bon là, je dis pas ça parce que je me gosse un peu et que je suis de la fac de Toulouse. Voilà, c'est classé. En fait, il faut savoir que pendant très longtemps, jusque dans les années 90, en fait, il n'existe pas officiellement de chaire de préhistoire. La préhistoire est toujours une science à part et annexe, soit de la géologie. On sera docteur en géologie, notamment à l'université de Bordeaux.
Oui.
Pierre-Yves Demars est docteur en géologie. On sera docteur en sciences humaines et sociales à l'Université de Toulouse. Au moment où je vous parle, c'est toujours le cas. Vous n'êtes pas préhistorien, vous êtes docteur en sciences humaines et sociales. Par contre, à Paris, il y a bel et bien un doctorat en préhistoire à Nanterre. Donc, les choses ne sont pas encore tout à fait finies. À ce niveau-là, on a encore des progrès à faire, quand même. Ça, c'était juste la petite mise au point, rapidement. Rapidement aussi, non, je ne répondrai pas directement aux deux questions. Je ne sais pas si le préhistorien est un gauchiste patenté, et je ne sais pas non plus s'il y a un mauvais caractère. Je laisse les gens au juge.
Je dis autant de mortifères. On n'est plus autant de mortifères.
Non, mais bon, non.
Ben, Mortillet, il le faisait exprès. Hein.
Oui.
Il provoquait.
Il provoquait, et surtout, il avait une grande animosité envers Cartaillac.
Voilà.
Ce qui voudra des passes d'armes absolument fabuleuses, notamment quand Brassin-Pouille sera fouillé, et aussi sur la reconnaissance plus tard de l'art préhistorique.
Voilà, son problème, c'est que comme il prétendait que les hommes préhistoriques n'avaient pas d'âme, il était embêté quand on a commencé à les trouver enterrés par leurs proches, ou bien qu'on a commencé à trouver des dessins sur les murs, des gravures sur les objets, c'est embêtant parce que ça prouve quand même qu'ils ont un peu d'âme quand même.
La situation n'est plus trop tenable.
Ensuite, autant des abbés Buissonnier, ça devenait évident.
Ça devenait évident. En fait, il faut attendre la fin du 19e, le début du 20e pour en connaître l'antiquité de l'art préhistorique.
Oui.
Ce sont notamment les travaux de Breuil, à fond de gomme, ce genre de choses.
Oui.
Ce sont les travaux qui ont été menés aussi en Espagne, à Altamira, qui ont pu mettre. D'accord, les gens, ils ne peuvent pas faire toutes.
Enfin, pas tous, il y en a qui ont tenu le coup jusqu'au bout.
Il y en a qui ont tenu le coup jusqu'au bout.
Ah oui.
Mais la communauté scientifique sera en gros d'accord à partir de 1905, si mes souvenirs sont bons, des publications de Breuil sur fond de gomme et les ronds d'arrière.
Voilà. C'est le moment où on se dit quand même que c'est l'homme préhistorique doit nous ressembler.
Voilà. Comme quoi, ça s'appelle préhistoire, mais si on ne sait pas si vieux que ça. Alors moi, je vais...
Ça, c'est beau.
Oui, si j'arrive à le mettre, ce sera pas mal. Vive le progrès. Moi, je vais simplement, aujourd'hui, vous parler d'un objet découvert en 1968 dans le quartier du Vieux-Mur, au nord-ouest de notre bonne ville de Brive. Cet objet, en fait, qui est un biface, a déjà fait l'objet d'une courte note, très rapide, de Jean-Paul Reynal en 1969 dans le bulletin de la Société. Vous voyez ici le dessin que Jean-Paul Reynel avait fait à l'époque. Quand je dis courte note, vraiment, c'est 8 lignes et un commentaire. Bon. C'était les débuts du renouveau de la préhistoire en Corrèze à cette époque-là, avec l'arrivée de Jean-Paul Reynel, Guy Mazière, Pierre-Yves de Mars, si je ne cite pas, il va en couler une, sous l'impulsion à cette époque-là, notamment d'Henri Delporte. Très important, monsieur. Donc, ce biface, il a fait l'objet d'une première publication dans le bulletin de la société en 1969. Mais il se trouve tout simplement que 50 ans après, c'était une bonne opportunité de revenir sur cette pièce pour deux raisons. La première, essayer de la décrire de manière un petit peu plus longue, plus fine, avec un petit peu plus de détails du point de vue du type de sexe auquel on a affaire, du point de vue du type d'objet auquel on a affaire, du point de vue de sa fabrication. Enfin, rentrer un tout petit peu plus dans le détail de l'objet, ce qui va être une première partie de mon intervention. Et la deuxième partie de l'intervention, elle va être consacrée à l'intégration du biface du Vianmur dans une réflexion à plus large échelle sur l'emploi des nouvelles technologies sur la médiation en préhistoire. En gros, à quoi peuvent servir les nouveaux outils numériques sur la mise en valeur de ces objets préhistoriques, pas seulement préhistoriques, tout objet archéologique non peut être mis en valeur par ce procédé, mais c'est juste que comme je suis préhistorique, je suis un petit peu attaché avec les loups. Forcément. Pour l'instant, la première étape, ça va être de vous montrer comment ces processus fonctionnent, de virtualisation d'objets en quelque sorte, peuvent fonctionner, à quoi ils peuvent servir, et est-ce qu'on ne peut pas essayer de les intégrer, notamment sur le nouveau site de la société. Voilà. Donc, ce ne serait pas plus mal d'ailleurs. Alors donc, ah, c'est un petit peu holiste. L'on est à détente ce truc. Ah non, c'est dans l'autre sens.
Ouais. Il faut y aller doucement.
C'est-à-dire que je travaille dans les nouvelles technologies. C'est une blague. Alors rapidement, donc pour le contexte de la découverte. Pour replacer un petit peu le contexte de la découverte, vous voyez ici en bleu une localisation du quartier du Vianmur. Voilà, c'est très bien. Donc, si je ne me trompe pas, Madame Guédi, corrigez-moi. Nous avons ici la nationale qui mène à Paris, ouais. La nationale 20. L'ancienne nationale 20.
Oui, ça c'est la rue qui part du pont.
Voilà, le pont de la Bouvie qui est ici.
La Bouvie ?
Non, ça c'est le pont Cardinal.
Le
pont de la Bouvie est là.
Non, la Bouvie c'est là. Et là-bas c'est.
Avec l'église des Rosiers là.
Oui, oui, je confirme, j'ai vu d'autres. Oui. Bravo. Donc comme vous pouvez voir, c'est un quartier qui est localisé en fait au nord-est de Brive. Ici, vous avez le chemin des crêtes qui passe.
Très vieux chemin des crêtes.
Ouais, juste en dessous du chemin des crêtes.
C'est alors, limite avec Ussac.
C'est en limite avec Ussac.
Comme on dit, c'est vraiment le chemin ancien.
Alors, pourquoi je cite cet endroit tout à fait au nord ? Je vais me transformer en présentateur météo bientôt. Ici, en fait, tout simplement parce que notre biface, d'après ce qui est noté, il faut toujours parler de notation, aurait été trouvé justement... sur le chemin des crêtes,
ouais.
Tout ce qu'on sait, au bord d'un champ qu'il y avait à l'époque.
Il y a des champs avec des grottes, des abris sauvages. Des petits abris sauvages. Ouais.
Et en fait, c'est un biface qui a été découvert en bord de champ, dans un tas de pierres, comme ça a été dit à l'époque. Donc ça, par contre, ça ne va pas vraiment nous aider, dans le sens où déconnecter de son contexte archéologique, une pièce isolée comme ça, toute seule, c'est un petit peu compliqué pour avoir des précisions chronologiques ou autres. Alors si on replace un petit peu cette découverte dans le contexte du paléolithique moyen local, je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi j'ai une datation au paléolithique moyen, Si on replace ces découvertes dans le contexte du paléolithique moyen local, on voit que notre biface a été découverte donc au nord du Vielmur, dans ce secteur, le long du chemin des crêtes, qu'on a d'autres découvertes qui avaient été faites tout au long du 19e siècle dans le secteur de la Pigeonnie, et notamment aussi les fameuses grottes de chez Pourré, chez Comte, oui, qui sont localisées juste à côté.
Ça, c'est les premières grottes fouillées, quoi.
Qui, chez Pourré, chez Comte, qui font partie des premières grottes fouillées par la Lande et Massena dans les années 1864-1865, avec, entre autres, Puy-de-Lacan, qui se situe plus du côté de Malmoire, et qui est plus récent. Hop là. Alors, si nous revenons sur notre biface, que voici que voilà. On va réduire un tout petit peu la volume. Voilà. Notre biface, tout d'abord, il est fait dans un type de silex précis. Toujours important de revenir sur la matière première. Tout simplement pour essayer de savoir un tout petit peu d'où peut provenir notre silex et accessoirement peut-être notre pièce. Alors ici, nous avons un silex de couleur gris-noir, comme vous pouvez le voir. C'est de couleur gris-noir, opaque, on ne voit absolument pas à travers, à grain quand même plutôt fin et homogène, un bon silex, ma foi, pour la taille. Alors, ce qui est intéressant aussi à noter sur notre pièce, c'est que nous avons la présence de ce qu'on appelle du cortex, sous forme de zonation un petit peu gris-beige, que vous pouvez voir par endroit, sur la face arrière, ici, la face arrière, sur les bords, ici et là. Ce cortex, en fait, c'est la croûte extérieure du galet qui a été employée, ou de l'éclat, qui a été employé pour fabriquer le biface. En gros, c'est comme si là, vous aviez la croûte d'une patate. Voilà, comme s'il reste un petit peu de épluchure ici, sur votre patate. J'aime bien la comparaison avec les patates. Alors, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que au sein de notre silex, alors je suis désolé pour la qualité des images, pour les gens qui sont un petit peu loin, on remarque la trace de tout petit point blanc par endroit. Vous voyez à la pointe des flèches. Il y a des petits points blancs ici. Vous en voyez d'autres par là qui se promènent un petit peu partout, à gauche et à droite. Ces petits points blancs, en fait, ce sont des fragments de fossiles. Il y a des bouts de fossiles dans les silex ou ici. Pour être plus précis, ce sont des fragments de piquants d'oursins qu'on peut plus ou moins deviner. Ici, là, les petits traits qu'on voit. Alors honnêtement, il faut regarder ça à la loupe. Sinon, comme ça, vous ne verrez pas. On a d'autres traces de fossiles au sein de notre biface, notamment cette espèce de cercle que vous pouvez voir là, qui est en fait tout simplement un fragment soit d'oursin, à vos souhaits, soit d'oursin, soit de coquillage. Le petit truc qu'on peut voir à la pointe de la petite main, là. C'est un petit peu embêtant, ce truc.
Bon, pas trop. Hein.
Autre élément, en termes de fossiles, nous avons aussi, sous forme de cette tache blanche que vous voyez là, dans le silex, qui est en fait tout simplement un débris de coquille, un morceau de coquille qui est écrasé dans le silex et présent juste dans le matériau. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça nous dit quoi? Ça nous dit tout simplement que si on trouve des débris de coquilles, des poux, des oursins dans un silex, c'est qu'il a une origine marine. Géologiquement parlant, il est d'origine marine. Où trouve-t-on des roches d'origine marine? En Corée, c'est un petit peu compliqué. Et les points les plus proches pour avoir accès à ce type-là de matière première se trouve, quand même pas très loin de chez nous, en Dordogne. Tout simplement, vous voyez le vert un petit peu foncé que vous voyez sur l'écran. Tout ça, ce sont des formations de roches qui datent du Crétacé. En gros, c'est la fin des dinosaures. Et ce sont des formations de roches d'origine marine. Ce sont de ces formations, principalement, d'où viennent les silex qui sont employés par les préhistoriques à l'époque dans le bassin de Brésil. C'est tout simplement grâce à la vision qu'on peut avoir, ces différents facteurs, la couleur de l'objet, les inclusions qu'on retrouve à l'intérieur, qui peuvent nous dire, tiens, ce silex, il vient probablement de Dordogne. Donc on sait qu'il vient en gros de ce secteur. Ne me demandez pas de localisation plus précise, je serais bien embêté pour vous en dire davantage. Alors, après cette première aparté sur avec quoi, avec quelle matière première notre biface est fabriqué, petite aparté, un peu plus longue, sur la technique de fabrication de notre biface. Parce qu'une fois qu'on a un objet, c'est bien beau, mais ce que vous voyez, c'est l'objet fini et utilisé. Voire carrément jeté par le préhistorique, le cas échéant, vu qu'il n'en a plus besoin. Alors notre biface, comment ça se fabrique? Alors en l'occurrence, concernant le biface du Vianmur, tout d'abord, il faut savoir qu'il a été fabriqué à partir d'un éclat. Un éclat, c'est quoi? C'est juste un gros fragment de roche. Qui a été détaché d'un bloc de roche plus important. Cet éclat, en fait, on retrouve tout simplement, si vous vous souvenez de l'histoire des éplucheurs des patates, mais en fait, c'est cette partie-là qu'on va retrouver sur notre éclat, qui va nous dire c'est un fragment qui a été détaché d'un bloc beaucoup plus important. Ça, c'est la première étape. On va détacher notre morceau. Deuxième étape, on va tailler notre morceau avec des enlèvements un petit peu forts, longs, qui couvrent les deux faces de l'objet. Donc, le terme de biface, vous direz-vous, c'est bête. Ces enlèvements, qui sont un peu gros et un peu longs, ils vont alterner d'une face à l'autre pour donner à la fois sa symétrie et sa forme à l'objet. Ce qu'on appelle des retouches d'affûtage. Ça, tout simplement, on les retrouve. Voilà. Ici, je vais vous arrondir le truc, voilà. Ici, vous notez bien la forme un petit peu en ballant dans le pied écrasé du biface. Ça, c'est caractéristique de ce genre d'objet. Et c'est une forme et un profil qu'on retrouve à chaque fois. La dernière phase de fabrication de notre biface, une fois qu'on a fait ces grandes retouches qui vont venir donner plus ou moins sa forme à l'objet, on va venir donner des retouches beaucoup plus fines sur tout le pourtour de la pièce. Des retouches avec un petit percuteur tendre. Généralement, on va utiliser un bois d'arène, ce genre de choses, pour affiner l'objet et rendre les côtés beaucoup plus tranchants. C'est le but de l'opération. Alors, si je me fie à ce genre-là de schéma, est-ce que ces différentes phases, je vais les retrouver sur mon biface ? C'est quand même intéressant de savoir. Alors, grâce à la magie de la retouche photo, voilà, on peut voir effectivement sur le dessin original de Jean-Paul Reynal qu'on retrouve bien ces différents moments de fabrication. On va retrouver ici en noir la fameuse trace de cortex, donc le galet original à partir de l'éclat original à partir duquel notre biface a été fait. On va retrouver en rouge ici, les grands éclats longs et obliques qui viennent donner sa forme à la pièce. Et en bleu, sur tout le pourtour, les éclats un petit peu plus fins qui vont finir d'achever le travail et donner sa forme définitive à l'objet. Vous noterez que sur l'autre face, ça marche aussi. Alors sur l'autre face, comme j'ai pas de dessin, je me suis amusé un petit peu à trifouiller avec les photos que j'ai. Ici, donc, même chose, vous retrouvez sous Madame Kelly, vous retrouvez ici en jaune les fragments de ce qui reste de l'éclat original, le fameux cortex. Vous retrouvez en rouge les enlèvements, ici au milieu plutôt, les enlèvements originaux, les enlèvements qui viennent après et qui viennent donner sa forme à l'objet. Bon, ici, honnêtement, on ne les voit pas trop. Je m'en excuse, on les verra plus en détail tout à l'heure. Et en bleu, pareil, sur tout le pourtour, les petits enlèvements réguliers, vous les devinez ici, sur le, à droite, et en partie ici et ici à gauche, les petits enlèvements réguliers qui viennent donner sa forme définitive à l'objet. Alors maintenant qu'on sait comment est fabriqué notre objet, à quelle forme appartient cet objet? Oui, parce qu'en préhistoire, on a une grosse manie, c'est la manie de la classification. Madame Kelly parlait effectivement de classification des outils. La préhistoire est une science qui s'est fondée sur la géologie. En géologie, on a des fossiles. En préhistoire, on n'a pas de fossiles. On n'a pas de pétrole non plus, notez bien. Mais on a des objets et des idées. Partant de là, en fait, il faut savoir qu'il y a toute une typologie des bifaces qui existe. Cette typologie, elle a été formalisée en 1961 par François Borde, grand professeur de préhistoire à l'université de Bordeaux. Et en regardant d'après sa liste type qu'il publie en 1961, on voit que notre type de biface, du Vienne-Mur, se rapproche des bifaces dites cordiformes par François Borde. Alors pourquoi cordiformes? Parce qu'ils ont une forme de cœur, tout simplement. De cœur à l'envers, si vous regardez bien, effectivement. Mais, bon, ça marche comme ça. Donc, une fois qu'on a fait tout ce travail de classification, vous voyez bien que, effectivement, notre biface peut s'inscrire dans la variabilité de ces jambes d'écran d'un côté. Une fois qu'on a dit ça, ben, on est bien avancé. C'est un biface isolé qui a été retrouvé dans le nord de Brie, c'est un biface de type cordiforme, qui n'a aucun lien géologique, aucun lien avec leur stratigraphie. Donc, pour essayer d'avoir des objets à côté de lui, c'est un petit peu compliqué. C'est aussi un petit peu compliqué tout simplement parce que quand on se réfère à la typologie, eh ben, nos bifaces cordiformes, ils sont fabriqués pendant pratiquement 760 000 ans. Veuve l'a bien renseigné. Donc tout ce que je peux en dire, c'est que ce biface, il a été fait probablement entre l'âge Léen, il y a 800 000 ans, là on est carrément à l'époque de Homo erectus, ça fait quand même bien vieux, ou jusqu'à la fin du paléolithique moyen. Là, on est donc à la fin de Néandertal, il y a entre 35 et 38 000 ans à peu près.
Hier, quoi.
Voilà, hier, avant-hier. Donc, nous voilà bien renseignés. À partir de là, comment ça peut fonctionner? Bah, tout simplement, on va essayer de raisonner par déduction. On sait que, d'une part, notre biface, c'est bel et bien une pièce isolée. Eh bien, c'est quand même pas la seule découverte dans le secteur. Je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a des bifaces qui ont été retrouvées notamment sur le site de chez Pro et chez Comte, et aussi dans le secteur de la Pigeonnie. Voilà. Il faut savoir que des bifaces dans le secteur de la Pigeonnie, on en a retrouvé plus d'une cinquantaine. Ils ont été publiés en 1934 par l'abbé Lejeune pendant le congrès préhistorique de France, tenu à l'époque à Périgueux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le secteur de la Pigeonnie, ces bifaces-là sont en grande majorité de type cordiforme. Tiens, je tiens quelque chose là. Malheureusement pour ces bifaces, bah, on n'a pas non plus de datation, ils ont été ramassés dans les champs. Pas de bol. Mais on sait aussi que sur les bords du bassin de Brive, au nord et au sud, on retrouve fréquemment à la fois du biface et des pièces d'époque moustérienne, c'est-à-dire des pièces de l'époque de l'homme de Néandertal, entre 300 000 et 35-38 000 ans. Ces pièces, on peut le voir, elles se répartissent du côté nord du bassin de Brive, et aussi du côté sud, depuis La Fournade, Gramont, jusque dans le secteur de Chèvre-Cujol. Ça, c'est ce qu'on appelle le moustérien des plateaux, qu'on retrouve comme ça de manière sporadique. Ce sont systématiquement des pièces plus ou moins isolées, mais ce que ça nous indique, c'est qu'il s'agit surtout d'habitat en plein air. Bon, à part le cas particulier de chez Pont et chez Comte, bien sûr, on est en vente. Sinon, pour le reste, on a ici des cas particuliers d'habitat en plein air. Alors, d'habitat en plein air, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement qu'à cette époque-là, pour habiter et avoir des campements à l'extérieur, on est dehors quand même. Je vous rappelle qu'on est à l'époque glaciaire, donc un petit peu frisqué. Pour habiter en plein air sous tente, il faut quand même qu'on soit à un moment, en termes de chronologie, où il ne fait pas si froid que ça. Un moment où il ne fait pas si froid que ça, on se rend compte qu'effectivement, à cette époque-là, entre 300 000, ici à ma droite, et grosso modo, voilà, on va être là, 75 000 ans, on se rend compte qu'on a plusieurs stades de réchauffement climatique. Le réchauffement climatique n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène cyclique qui a malheureusement tendance à s'accélérer ces 100 dernières années. Mais vous pouvez voir sur ce diagramme qu'à différents moments, on a des périodes de réchauffement. On en a une entre 190 000 et 244 000 ans avant notre ère, et on en a une, plus prosaïquement, entre 74 000 et 130 000 ans avant notre ère. Pour ma part, je serais plus enclin, c'est aussi Pierre-Yves de Mars le dit, je ne suis pas tout seul à le penser, il n'est pas impossible que notre mousse terrain des plateaux soit en fait lié à des habitations qui pourraient se situer durant cette période intergrade glaciaire, qu'on appelle aussi stade isotopique 5, à une période où le climat se réchauffe un peu. C'est une proposition de datation, ça ne veut pas dire que c'est la seule.
Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre. En interglacial, on est quand même sur une période froide.
On est quand même sur une période froide.
C'est ça, c'est pas une... Voilà, c'est pas...
voilà, on est quand même sur une période froide, mais moins froide que les autres.
Ça pouvait être aussi en saison
champagne. Ça peut être aussi des moments où il fait quand même relativement chaud, entre guillemets.
Ouais.
Il y a certains moments où il va faire quasiment les mêmes températures qu'aujourd'hui. Mais ça reste vraiment sporadique. C'est juste par petits battements, par petits moments. Et on voit bien sur le graphique, si on se réfère à nos températures actuelles, ici, on est légèrement en dessous au début du stade isotopique 5, et ça descend très vite. Mais on reste quand même au-dessus de la période glaciaire qui suit après, avec le moment le plus froid, il y a à peu près 20 000 ans. Donc, pour notre part, on sera enclin à penser que ce mousse terrain des plateaux, et donc d'une manière générale, notre biface du Jamur pourrait être daté entre 74 000 et 130 000 ans avant notre ère. Si on reporte ça sur un magnifique petit schéma, de qualité assez médiocre, passé en grand écran, j'avoue, on se situerait donc à cette époque qui voit le début de ce qu'on appelle l'Émien. C'est notre fameux stade interglaciaire. Là, on est bien entre 130 000 et 74, 80 000 ans avant notre ère. Notre mousse terrain des plateaux se situe ici. Et là, vers 55 000, donc je suis très sympathique, je vous ai fait un petit repère pour vous donner les datations de la chapelle au sein.
Ah, oui.
Vous voyez, on est quand même quasiment 50, 30 000 ans avant l'homme de la chapelle au sein.
C'est quand même pareil.
L'homme de la chapelle au sein qui continue, mine de rien, à faire du biface. Donc là, on est vraiment, en plus, à l'époque de Néandertal, il y a de fortes probabilités que notre biface date de cette époque. Je ne dis pas que c'est sûr. En archéologie, on n'est jamais sûr de rien. Mais il y a de fortes présomptions. Alors, après cette présentation de notre biface, on va se pencher maintenant sur l'utilisation des nouvelles technologies dans le cadre du patrimoine culturel et ainsi que de l'archéologie. Alors, l'emploi des nouvelles technologies à l'heure actuelle, à quoi il peut servir? Ce sont des processus qui servent notamment à avoir des copies numériques d'objets fidèles, pour aider à la restauration, notamment par le biais de l'impression 3D. Bon, la copie numérique d'objets, tout le monde la connaît, je pense, de manière classique, quand on archive des documents papier et qu'on les scanne. Ben, en fait, pour des objets en volume, c'est exactement la même chose. On va numériser des objets, les scanner et ensuite les avoir en 3D. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia ? Bah, notamment, petit exemple ici à Palmyre, vous savez ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça sur ces sites du Proche-Orient. En fait, grâce à ces techniques de numérisation en 3D et d'impression, on peut restaurer des objets qui ont été littéralement abîmés, pour ne pas dire plus, sur les sites archéologiques. Vous voyez ici, sur ce buste, voilà. Vous voyez ici sur ce buste la partie blanche qui a été entièrement refabriquée par impression 3D. Donc c'est une technologie qui a quand même son intérêt dans le cadre notamment de la restauration, de la conservation, de l'archivage des données. Ça permet aussi de rendre l'objet accessible et visualisable pour le plus grand nombre, par le biais d'Internet notamment. Ça permet de mettre à disposition des objets que vous ne verriez pas le reste du temps, parce qu'ils sont trop fragiles, parce qu'ils sont dans des réserves et qu'on ne les a pas encore sortis. Par exemple, le biface que je viens de vous présenter, il sera prochainement accessible, je vous donne le lien d'ici après-demain, c'est promis, il sera prochainement accessible sur le site de la société, alors que ben, les gens ne l'avaient pas vu jusqu'ici, pour donner une idée. Donc ces objets, on peut effectivement les déposer sur des plateformes internet qui existent à l'heure actuelle, qui permettent de voir des objets en ligne. Ça c'est vraiment assez génial, c'est plutôt bluffant. Ces objets, ils ont pour beaucoup été scannés par un procédé qu'on appelle d'un nom barbare de photogrammétrie, qui consiste tout simplement à prendre des clichés d'un objet. C'est un procédé finalement assez archaïque, il existe depuis le 19e siècle. Les premiers tests dans ce domaine-là ont lieu en 1849 sur la façade de l'hôtel des Invalides. Voilà. C'est un procédé qui s'appuie sur l'effet de stéroscopie pour reconstruire le relief. Un petit peu comme vos yeux, qui voient la même chose de manière légèrement décalée. C'est ce décalage qui va produire le relief. La photogrammétrie fonctionne sur le même principe. Ce procédé, il faut savoir qu'avec l'apparition des ordinateurs de plus en plus puissants, il est devenu facilement accessible. Facilement accessible reste un bien grand mot. En effet, il faut savoir que dans les années 90, pour visualiser des objets en photogrammétrie, ça ressemble plutôt à ça. Oui, c'est moins pratique que votre ordinateur et votre accès à Internet. Voilà.
C'est beau ça. J'ai appris là-dessus.
Alors, cette histoire de photogrammétrie, ça marche comment ? Comme je le disais, c'est un principe assez simple. On fait des photos autour de l'objet. Voilà. Même moi, j'ai fait, donc tout le monde peut le faire. Il y a quand même certaines contraintes où il vous faut effectivement avoir des clichés les plus nets possibles. Sinon, le logiciel ne va pas apprécier. Et honnêtement, vos yeux, après, non plus. Donc ça, c'est la première règle à apprendre. Évitez d'avoir des ombres portées sur votre objet qui pourraient tromper le logiciel de calcul. Toujours pareil. Avoir des points communs entre les différents clichés. C'est-à-dire, généralement, on prend une photo d'objet, on tourne autour, on fait un pas, on fait un cliché, un pas, un cliché, et ainsi de suite. C'est un petit peu fastidieux, mais bon, il n'y a pas le choix. Et on va éviter d'avoir des reflets sur l'objet. Pareil, les reflets peuvent tromper le logiciel de calcul. Alors, le relief 3D par photogrammétrie, ça peut se faire de manière assez simpliste, avec un appareil photo de qualité, je précise. Avec votre appareil photo numérique classique, ça fonctionnera une fois sur 20. Là, il faut vraiment un appareil, on peut contrôler pratiquement tout ce qu'on fait. Et croyez-moi qu'apprendre le fonctionnement de ce genre de truc, c'est déjà du travail. On utilise simplement un trépied, pourquoi ? Pour avoir des photos les plus stables possibles, tranquillement. On utilise un plateau tournant de cuisine de 4,90€ pour poser l'objet dessus. Et on utilise des petites boîtes de jouets qu'on avait quand on avait 5 ans. Ouais, ça sert encore. on peut faire des nouvelles technologies avec rien, en fait. C'est ça que j'apprécie. Alors, comment fait-on? Tout simplement, exemple, avec notre biface de Vienne-Mur en pleine séance photo, vous pouvez voir qu'effectivement, notre biface, il est projeté sur un support, fait avec une petite brique, que ce support est posé sur un plateau tournant qui est en dessous de vous, et que tout ça est mis sur un fond de couleur bleue, un petit peu comme les gens qui présentent la météo à la télé devant un fond. Alors pourquoi un fond de couleur bleue? Tout simplement pour pouvoir prendre d'une part un maximum de clichés sans avoir le fond qui bouge tout le temps. Là vous voyez par exemple que pour le biface de Vienne-Mur, j'ai pris 96 clichés. J'ai pris un peu de temps mais je l'ai fait. D'une part, tout simplement, le préhistorien, je ne sais pas s'il est gauchiste, mais il est facile sur le préhistorien. Le préhistorien, au lieu de se déplacer autour de l'objet, comme il est un petit peu fainéant, c'est l'objet qui se déplace tout seul.
Et ben oui.
D'où l'intérêt du plateau tournant. Sauf que le logiciel, il n'est pas bête non plus. Et si on utilise un plateau tournant sans masquer ce qu'il y a autour de l'objet, ben le logiciel va vous dire, vous n'êtes pas déplacé. Donc, on va masquer de manière précautionneuse tout l'environnement du biface. C'est pour ça qu'on utilise un fond bleu, parce que ça va beaucoup plus vite pour masquer que ça où vous passez une demi-heure à faire les traits.
Oui, mais le plateau tournant, ça tourne régulièrement ou bien vous le poussez à la main?
Je le pousse à la main, mais de manière régulière. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait sur le plateau, j'ai fait une encoche au stylo, tous les 10 degrés.
D'accord.
Et je le tourne de 10 degrés entre chaque photo.
Oui, c'est ça.
Un jour, j'aurai des moyens, j'achèterai un plateau électrique. Alors, vous pouvez voir sur le fond de la photo un journal. Le journal peut aider dans certains cas à caler les photos. Et aussi, en fait, quand on prend des photos, quand on voit qu'on peut lire sur le journal, ça veut dire que la photo est nette. C'est bête, mais c'est à la profondeur du champ, en fait. Alors, autre chose, vous voyez ce bout de papier avec des petits points marqués dessus. Ce petit bout de papier-là, ça va servir de règle, tout simplement, pour ensuite mettre l'objet à l'échelle. Ah, c'est bête, hein, c'est une échelle faite avec rien. Et ça fonctionne. Alors, une fois qu'on a fait tout ce long travail de photographie et de masquage, qu'on met tout ça dans notre machine, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on peut voir que notre machine va d'abord calculer ce qu'on appelle un nuage de points, c'est-à-dire que chaque petit point que vous voyez représenté dans cette masse de bouillie grise est en fait un point de référence pour le logiciel par rapport aux photos que vous avez faites. Là, il sait qu'il a des points de référence pour construire ce qui va se passer après, et qu'est-ce qui va se passer après? Il va construire le modèle en trois dimensions par extrapolation à partir des tout petits points de référence. Et une fois notre modèle en 3D créé, on va pouvoir appliquer dessus les photos que nous avons faites. C'est tout l'intérêt de faire des photos extrêmement nettes, c'est que ça évite d'avoir une texture un peu trop baveuse, pas très belle. Bon, ici c'est pas très chouette parce que j'ai réduit les dimensions du truc pour que ça rentre. On notera quand même la présence de quelques petits bugs que j'ai toujours pas éclaircis sur la texture, notamment ces aspects un petit peu grisâtres ici et là-haut, l'espèce de césure qu'on a. Honnêtement, je ne sais toujours pas d'où ça vient. Affaire à suivre. Alors, du coup, une fois tout ceci fait et mis à l'échelle, la question qui demeure est-ce que la photogrammétrie est précise? Est-ce que cet outil peut réellement servir à la conservation de données et à leur pérennisation si possible? La réponse est qu'on s'en sort pas si mal. Notre objet, à la base, il fait 15 cm de haut, 10,3 de large, dans cette dimension, la hauteur ici, et un peu moins de 3 cm d'épaisseur. On se rend compte que sur la copie numérique, on a à peu près les mêmes dimensions, avec un écart de l'ordre de 0,1 cm. Voilà. Entre 0,1 et 0,2 cm. Donc, on est quand même pas si mal, surtout pour un objet de cette taille-là. Alors, pour vraiment se rendre compte de la différence, on peut tout simplement superposer notre rendu en 3D au dessin original de Jean-Paul Reynal. On peut voir qu'on n'est pas loin du tout, que nous avons quelques petites différences en haut à gauche et en bas à droite. Reste à poser la question de savoir si ces différences, 1, sont dues au logiciel, ou 2, à l'œil du préhistorien qui dessine.
Et voilà. Bien sûr, il faut le savoir.
Ça, c'est toute la question. Mais comme quoi, il n'y a rien d'espace mal. Alors, c'est bien beau de faire des modèles en 3D, machin, mais à quoi ça peut servir concrètement? Concrètement, ce modèle en 3D, quand on applique différentes sortes de filtres, un peu comme on fait sur une photo, ça permet de voir un tout petit peu mieux les volumes de l'objet. Jusqu'ici, vous ne les avez pas trop vus, parce que vous voyez vraiment ce qu'on appelle la texture, c'est-à-dire la photo de l'objet en 3D. Mais ici, quand on s'amuse un tout petit peu avec la lumière, on peut retrouver effectivement les différents enlèvements de manière un tout petit peu plus nette. Vous remarquez ici, là, à gauche, les fameux grands enlèvements,
oui,
un petit peu allongés, qui viennent pour donner sa forme à l'objet, sa configuration. Les petits enlèvements qui viennent border pour affiner un tout petit peu la taille de l'objet. Ici à gauche, on les aperçoit, là à droite, on les voit vraiment. On a des ombrages très réalistes. À droite, même chose, on voit bien en évidence ici et là les enlèvements un peu allongés qui viennent donner sa forme à l'objet, et les petits enlèvements à droite sur le côté qui viennent affiner tout ça. Et ça, du coup, ça nous permet aussi de rendre accessible ce biface sur Internet. Ça, c'est le biface tel que vous le verrez d'ici quelques jours sur Internet. Voilà. Là, pour l'instant, il a été entre guillemets mis en ligne. Il n'est pas publié. J'attends aujourd'hui pour le publier, quand même. Ce qui est intéressant pour vous donner la qualité, c'est qu'on arrive quand même sur le modèle 3D à lire les annotations sur la pièce. Donc on peut voir qu'effectivement ce biface a été trouvé au vieil mur, sur la crête, donc au chemin des crêtes, par M. Delsol, agriculteur, en 1968. Alors si quelqu'un connaît un M. Delsol qui était agriculteur dans le secteur du vieil mur dans les années 60, je suis intéressé. Voilà, je pense que là-dessus, on a fait le tour pour ce qui est de cette partie de la présentation. Et du coup, spouf, voici donc, comme vous pouvez le voir, un modèle 3D, hop là, de notre biface. Et pourquoi la souris ne répond plus?
Sur Firefox, c'est l'équation qui est sur la clé USB.